Laudetur Jesus Christus.
Vous écoutez Radio Vatican, il est 18h.
Vatican Radio, World News, French and English edition.
Au Bangladesh, les secours s'organisent pour venir en aide aux millions de sinistrés du cyclone Sidir. Près de 7 millions de personnes tentent désespérément de trouver quelque chose à boire ou à manger. Nous verrons comment agit sur place la Caritas. La junte birmane au cœur des discussions du sommet de l'ASEAN, l'association des États du Sud-Est asiatique, qui s'est ouvert aujourd'hui. La junte birmane qui doit faire face à de nouvelles sanctions de la part de l'Union européenne. Un nouveau dignitaire du régime des Khmers rouges inculpé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Khieu Samphan était le président du Cambodge sous le régime de Pol Pot. Pervez Musharraf persiste et signe, le président pakistanais maintient l'état d'urgence malgré les pressions des États-Unis. Le pape s'adresse aux évêques du Kenya en visite ad limina à Rome, Benoît XVI a plaidé en faveur de la vie. Le pape qui a lancé hier un appel contre les mines antipersonnelles à l'occasion d'une conférence internationale. De plus en plus de pays bannissent ces armes qui ont causé la mort de 5700 personnes cette année.
Le journal Xavier Sartre.
Bonsoir. Les survivants du cyclone Sidir tentent de s'organiser pour manger et boire. Des hélicoptères leur larguent des vivres. L'armée bangladaise est mise à contribution pour acheminer elle aussi de la nourriture. Dans le sud du pays, la zone la plus touchée, la Croix-Rouge estime qu'il y a 7 millions de personnes qui ont besoin d'une assistance d'urgence. Des zones entières ont été dévastées, n'ayant quasiment plus aucune maison debout. Jean-Yves Lescave, directeur du service des urgences internationales au secours catholique Caritas France, revient sur les conditions de travail de l'ONG. Sur place.
La Caritas Bangladesh a pu tout de suite aider les gens en distribuant des rations de riz, en distribuant des couvertures et en proposant des abris à des gens qui n'en avaient plus. Ce qui est en train de se faire sur place, c'est un recensement des besoins, donc un peu plus chiffré. On connaît bien sûr les grandes lignes de ce que la population a besoin, mais en quelle quantité, voilà la grosse question. On attend de la part de notre Caritas Bangladesh un budget chiffré qui va se monter à plusieurs millions d'euros. D'une part, il y a des équipes naturellement qui soulagent tout de suite les gens qui peuvent être soulagés avec les moyens dont ils disposent, qui sont quand même importants. Et puis, deuxième équipe qui travaille sur le recensement des besoins pour demain. La première étape va être de pouvoir accéder aux zones qui ont été touchées par le cyclone. Les routes ne sont pas toutes réouvertes, l'électricité n'est pas revenue partout. Donc la première chose, c'est de pouvoir accéder aux zones et plus les secours avancent vers le sud, plus ils découvrent l'ampleur de la catastrophe. Ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est de dire dans les jours qui viennent, dans les deux jours qui viennent, qu'est-ce que nous allons trouver dans le sud. Et nous sommes vraiment très très inquiets. Pas seulement au secours catholique, pas seulement dans le réseau Caritas, mais dans l'ensemble des secours, c'est un peu la tendance générale et on s'aperçoit qu'on est vraiment en face d'une catastrophe majeure.
Des propos recueillis par Olivier Bonnel. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a elle aussi été touchée par un cyclone du nom de Gouba. Là, les inondations ont causé la mort d'au moins 71 personnes selon un dernier bilan, mais des dizaines d'autres sont encore portées disparues dans l'est du pays. Le régime birman, toujours sous l'œil attentif de l'Union européenne. Les 27 avaient décidé de prendre des sanctions en octobre dernier. Elles se sont concrétisées ce matin, puisque les bois et les métaux birmans sont dorénavant sous embargo. Elles visent, selon les Européens, les sources de revenus du régime, notamment dans les secteurs où les violations des droits de l'homme sont communes. Les sanctions sont surtout débattues au sein de la communauté internationale, donc comme au sein de l'Union européenne, mais aussi par les organisations qui militent contre la junte. Mais qu'en pensent les Birmans? Max Constant a tenté de le savoir.
Comme dans la communauté international, il n'y a pas de point de vue unifié parmi les Birmans vivant en Birmanie concernant la question des sanctions. Mais une majorité semble se dégager pour s'opposer à cette campagne de la communauté internationale. Pour une raison simple, les sanctions, disent beaucoup de Birmans, ne provoquent aucun changement politique. L'autre raison pour laquelle les Birmans désapprouvent la politique de sanctions est que celle-ci tende plus à affecter la population que les dirigeants du régime. Une employée d'une usine textile gouvernementale dit avoir perdu son emploi quand l'usine a fermé il y a 6 mois à cause des sanctions. Pourquoi n'aidez-vous pas notre pays à se développer, lance-t-elle. Quelques-uns insistent toutefois sur le maintien et même sur le durcissement des sanctions ciblées, celles qui atteignent directement les dirigeants du régime, comme l'interdiction des visas pour aller en Europe ou aux États-Unis. En tous les cas, une conséquence des sanctions est indéniable, elles permettent d'alimenter la propagande du gouvernement. Depuis septembre, la junte a un nouveau slogan « Si le pays est pauvre, c'est à cause des sanctions ». Rangoon, Max Constant pour Radio Vatican.
Hasard ou non du calendrier, mais Aung San Suu Kyi, la chef de file de l'opposition birmane, a rencontré pour la troisième fois en moins d'un mois son interlocuteur privilégié au sein de la junte birmane. Une entrevue qui coïncide avec l'ouverture du sommet de l'ASEAN, l'association des États du Sud-Est Asiatique à Singapour, une organisation dont la Birmanie est membre et qui sera sans aucun doute au cœur des discussions entre les dirigeants de ces États. Un compte-rendu de l'émissaire spécial des Nations Unies pour la Birmanie, Ibrahim Gambari, a été annulé aujourd'hui sous pression de la junte birmane. Un cinquième suspect, Khmer Rouge, inculpé ce soir. Khiom Sampan a été arrêté ce matin au Cambodge et placé en détention. Il est donc inculpé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre. Khiom Sampan, c'est l'ancien chef d'État du Cambodge, sous Pol Pot. Il a été conduit donc dans les locaux du tribunal Khmer Rouge de Phnom Penh. Âgé de 76 ans, il sortait tout juste de l'hôpital lorsque des policiers l'ont appréhendé. Jérôme Borouzeski nous en dresse le portrait.
Khiom Sampan a un doctorat en économie. Il a fait une partie de ses études en France et c'est d'ailleurs à Paris qu'il a fréquenté Pol Pot, mais aussi Ing Sari, un autre Khmer Rouge arrêté la semaine dernière à Phnom Penh. Les juges d'instruction n'excluent pas d'incarcérer d'autres personnes si les investigations concernant les cinq premiers Khmer Rouges arrêtés depuis juillet révèlent que d'autres suspects importants doivent être entendus. Khiom Sampan a rédigé la constitution du Cambodge de Pol Pot, il a dirigé l'État Khmer Rouge, mais aucun document ne permet aujourd'hui de déterminer s'il a oui ou non ordonné des purges. Il dit qu'il n'était pas au courant des massacres. Dans un livre publié il y a 3 ans, Khiom Sampan a expliqué sa prétendue ignorance concernant les crimes Khmer Rouge par sa naïveté. Il sera défendu par le célèbre avocat Jacques Vergès. Tous deux se connaissent depuis les années 50 lorsqu'ils militaient contre le colonialisme français. Jacques Vergès était aujourd'hui dans les locaux du tribunal à Phnom Penh où son client a été interrogé par les juges d'instruction. À Phnom Penh, Jérôme Borizewski pour Radio Vatican.
L'état d'urgence bien maintenu au Pakistan, envers et contre tout. Pervez Musharraf ne change pas de ligne malgré les pressions de l'opposition et celles des États-Unis, leur principal allié étranger. Washington veut une levée immédiate de l'état d'urgence, pour l'instant sans succès. Iris Dereux.
Pervez Musharraf n'en démord pas. L'état d'urgence sera levé quand il l'aura décidé, c'est-à-dire quand la sécurité sera rétablie dans le pays, selon ses mots. Le discours de John Negroponte, le secrétaire d'État adjoint américain en visite au Pakistan, était pourtant explicite. La situation doit revenir à la normale et les élections législatives de janvier ne peuvent pas se tenir sous l'état d'urgence. Mais le général Musharraf tient tête aux Américains et à l'opposition. Il est d'autant plus convaincu que son pouvoir de président vient d'être conforté par la Cour suprême pakistanaise qu'il avait pris soin de remanier dès le début de l'état d'urgence. La Cour suprême vient de rejeter la majorité des recours déposés par les partis d'opposition contre l'élection de Pervez Musharraf comme président en octobre dernier. L'opposition voulait ainsi faire invalider sa candidature sous prétexte qu'un président de la République ne porte pas l'uniforme de l'armée. Mais la Cour suprême n'a pas suivi. Que l'état d'urgence soit levé ou non, la présidence de Pervez Musharraf est donc légitimée. À New Delhi, Iris Dereux pour Radio Vatican.
Et parmi les opposants pakistanais, l'ancien joueur vedette de cricket Imran Khan a entamé une grève de la faim en prison. Il a été arrêté la semaine dernière après avoir rappelé une manifestation contre l'état d'urgence. Attentat suicide ce matin en Afghanistan. L'explosion a eu lieu dans la province de Nimroz, dans le sud-ouest du pays. C'est le gouverneur de la province qui était visé. Son fils et ses 6 gardes du corps ont été tués. 14 autres personnes ont été blessées. Et à Kaboul, toujours ce matin, un kamikaze a été arrêté juste avant qu'il ne monte dans un car de ramassage d'officiers et qu'il n'actionne sa ceinture d'explosifs. Dernière entrevue aujourd'hui entre le Premier ministre israélien et le président de l'autorité palestinienne avant la conférence internationale d'Annapolis aux États-Unis. Ehud Olmert s'est engagé à libérer 450 détenus palestiniens et à ne plus faire construire de nouvelles colonies en Cisjordanie. Mais cela suffira-t-elle à combler les points de désaccord entre Palestiniens et Israéliens ? Valérie Ferron.
Cet entretien entre les deux dirigeants était perçu comme celui de la dernière chance pour tenter d'élaborer un document conjoint entre les deux parties devant être présenté lors de la conférence d'Annapolis prévue à la fin du mois. Après être resté dans l'impasse pendant des semaines, il semble donc que des avancées aient été enregistrées sur l'élaboration de ce document et les équipes chargées de le mettre au point doivent avoir une nouvelle rencontre demain mardi. Il est cependant difficile de savoir si ces avancées seront assez significatives pour rédiger un texte texte commun dans les temps voulus, et le chef des négociateurs palestiniens, Ahmed Korey, avait même annoncé pour sa part qu'il n'aurait pas de nouvelles rencontres avec son homologue israélienne Tzipi Livni avant la conférence d'Annapolis. Les Palestiniens restent par ailleurs prudents face aux déclarations israéliennes sur le gel de la colonisation, insistant pour que l'annonce soit suivie d'effets sur le terrain. Ils estiment par ailleurs insuffisant le nombre de prisonniers, 450, qu'Israël veut libérer. Jérusalem-Est, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Après la victoire des indépendantistes au Kosovo, l'avenir de la province ne fait plus de doute, en tout cas pour le gouvernement albanais. Selon lui, les Kosovars ont voté pour l'instauration d'institutions démocratiques, l'état de droit et pour l'indépendance de leur pays. Une indépendance de plus en plus envisagée par les 27. Le médiateur européen Wolfgang Ischinger a assuré que la Troïka, composée de l'Union européenne, des États-Unis et de la Russie, a exploré presque toutes les options humainement connues pour trouver un compromis entre les Serbes et les Kosovars. Les Russes ont appelé pour leur part les dirigeants kosovars à la retenue pour éviter toute déstabilisation de la région. Demain aura lieu une avant-dernière session de négociations à Bruxelles. Les recherches se poursuivent toujours en Ukraine à la mine de Zasiatko dans l'est du pays pour retrouver les mineurs toujours portés disparus. Ils sont encore 30 prisonniers sous terre. Selon un dernier bilan, 72 mineurs sont morts dans le coup de grisou survenu pendant des travaux de forage à plus de 1000 mètres de profondeur. Benoît XVI a envoyé un télégramme de condoléances à l'adresse du gouvernement ukrainien et aux familles des victimes. Benoît XVI qui a prononcé un nouveau plaidoyer aujourd'hui en faveur de la vie, de la famille et du mariage. Le pape a invité les évêques du Kenya en visite ad limina à défendre l'ouverture à la vie, très présente dans les cultures africaines, mais menacée aujourd'hui par des campagnes mondiales en faveur de l'avortement. Romida Ferrotto.
Le relativisme religieux exporté par l'Occident et la culture séculière globalisée propagée par les médias exercent une influence croissante sur les communautés locales en Afrique au détriment de l'institution du mariage et de la famille. Trop souvent, a estimé Benoît XVI, les maux qui touchent certains secteurs de la société africaine, tels que la promiscuité, la polygamie, la progression des maladies sexuellement transmissibles, sont à mettre en rapport avec une vision désordonnée du mariage et de la vie familiale. Le pape a donc demandé aux évêques kényans d'aider les parents à transmettre à leurs enfants le sens authentique du mariage chrétien, union indissoluble entre un homme et une femme, essentiellement égaux dans leur humanité et ouverts à la vie. Il s'est par ailleurs dit préoccupé par les campagnes menées par certaines agences en faveur de l'avortement. L'interruption volontaire de grossesse, a-t-il martelé, est toujours la destruction d'une vie humaine innocente que rien ne peut justifier. Et pour que l'annonce de l'évangile soit plus efficace dans tous les secteurs de la société, Benoît XVI a préconisé une plus grande unité à tous les échelons de la hiérarchie ecclésiastique.
Demain débutera à Rome pour 2 jours l'assemblée plénière du Conseil pontifical Justice et Paix. Le thème sera le 40e anniversaire de Populorum Progressio, une encyclique qui souligne l'importance du Conseil, avec comme sujet de débat principal le développement humain aujourd'hui, problèmes et perspectives. Les mines antipersonnelles tuent encore et toujours dans des pays en guerre, mais aussi dans des pays en paix. Cette année, 5700 personnes sont mortes pour avoir posé le pied dessus ou pour avoir roulé dessus. Un chiffre en baisse, mais qui reste encore élevé. Les mines antipersonnelles sont au cœur d'une conférence internationale qui s'est ouverte hier en Jordanie. Malgré ces morts quotidiennes, des éléments positifs sont à souligner, comme des programmes de déminage ou l'adhésion de nouveaux membres à la Convention contre les mines, comme celle de l'île de Palau, qui en est le 156e signataire. Des adhésions dont se félicite Sylvie Brigaud, la directrice générale de la campagne internationale pour interdire les mines antipersonnelles.
156 États partis, pour nous, c'est un résultat merveilleux, parce que je trouve que c'est un des traités de désarmement qui fonctionne le plus aujourd'hui. 2 signataires de cette convention qui ont signé en 1997, qui n'ont toujours pas ratifié, qui sont la Pologne et les îles Marshall. Nous espérons qu'avec les récents changements de gouvernement en Pologne, la Pologne pourrait honorer sa signature et bientôt ratifier la convention. Donc ça, c'est un énorme acquis. Au niveau de cette région aussi, nous avons 7 pays dans la région qui sont partis à la Convention, qui sont l'Algérie, l'Irak, la Jordanie, le Koweït cette année, le Qatar, la Tunisie et le Yémen. Et le Koweït et l'Irak ont accédé à la Convention cette année et c'était un grand effort de la part de, notamment de la Jordanie et pour essayer justement de promouvoir cette Convention, une Convention humanitaire mais aussi une Convention de désarmement dans cette région en particulier.
Des propos recueillis par Betsabé Salem et nous reviendrons sur ce sujet des mines antipersonnelles plus longuement dans notre dossier demain matin. Et ce problème des mines antipersonnelles est au cœur des préoccupations de Benoît XVI. Hier, lors de l'Angélus, le pape a rappelé que le Saint-Siège était l'un des principaux promoteurs de la Convention contre les mines. Il a lancé un nouvel appel pour que ces armes soient complètement bannies. La cathédrale de Mexico fermée aujourd'hui et ce pour une durée indéterminée, décision de l'archidiocèse de Mexico qui proteste ainsi contre le raid mené hier contre l'église. Selon les autorités ecclésiastiques de la capitale du Mexique, des dizaines de partisans de Andrés Manuel López Obrador, le candidat de la dernière présidentielle, ont investi la cathédrale renversant des bancs. Ils s'en sont pris aussi à des fidèles. Voilà, ce soir le magazine vous sera présenté par Mathilde Villain. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain matin. Bonne soirée.
Listening to Vatican Radio World News and the headlines this Monday evening. Caritas launches a global campaign for Bangladesh as the death toll from Cyclone Sidra hits 3,100 people.
The Philippines blocks a new Southeast Asian charter demanding the region address democracy in Myanmar.
Jesuit author Father James Martin tops Publisher Weekly's best books a second year in a row.
But first, Pope Benedict XVI urges Kenya's bishops to protect the family against the ills of secularized culture. Good evening, I'm Will Taylor.
And I'm Ema McCarthy. Top of the news this Monday evening, Pope Benedict XVI says the precious treasure of marriage and the family must be guarded at all costs from the ills of globalized secular culture. He was speaking to the bishops of Kenya at the end of their ad limine pilgrimage to the Holy See. Lydia Kane reports.
Pope Benedict's speech to the Kenyan bishops was one with a number of dominant themes, such as marriage and the family, education and the issue of abortion. However, after warmly greeting those present, he began by talking about the role of the bishop towards his flock.
Every bishop has a particular responsibility to build up the unity of his flock, mindful of our Lord's prayer, that they may be one, even as you, Father, are in me and I in you.
Continuing on this theme of the role of the bishop, Pope Benedict said it was part of the bishop's job to encourage and guide his priests.
Life can be difficult for priests today. They can feel isolated or alone and overwhelmed by their pastoral responsibilities.
The Holy Father then turned to another theme of his speech, marriage and the family, saying a key focus of unity in a community was the institution of marriage and family life, which, he added, the people of Africa held in particular esteem.
This precious treasure must be guarded at all costs. All too often, the ills besetting some parts of African society, such as promiscuity, polygamy, and the spread of sexually transmitted diseases, can be directly related to disordered notions of marriage and family life.
The Pope also said that despite a deep understanding of family life in Africa, it was a matter of great concern that a globalized, secular culture was exerting an increasing influence on local communities as a result of campaigns by agencies promoting abortion.
This direct destruction of an innocent human life can never be justified. However difficult the circumstances, it may lead some to consider taking such a grave step.
Finally, the Pope touched on the subject of education, praising the Church in Kenya for the fine contribution made by its educational institutions in forming generations of young people in sound ethical principles and in opening their minds to engage in peaceful and respectful dialogue with members of other social or religious groups. He then added, at a time when a secularist and relativist mentality is increasingly asserting itself through global means of social communication, it was all the more essential that the bishops continue to promote the quality and the Catholic identity of their schools, universities and seminaries. I'm Lydia O'Kane.
Turning to world news, the death toll from Cyclone Sidra rose to 3,100 today as survivors of the storm that devastated Bangladesh grieved and buried their loved ones. Aid agencies are warning the toll could hit more than 10,000 once rescuers reach outlying islands. Caritas and its local partner Catholic Relief Services have launched an urgent appeal for funding to aid the tens of thousands left homeless by the storm. CRS country manager Cassie Dumet spoke to us about the current situation on the ground.
This is a very large disaster and a large response is required. The immediate needs are for food, drinking water and shelter materials, just emergency materials. We're trying to get plastic sheeting, bamboo poles, just to give some temporary cover to families who've lost everything. And as soon as that is done, we're looking at the medium-term assistance and giving slightly better quality materials so that people can rebuild. But this is going to carry on. We're looking at least a year's response here in terms of the NGO program. People's livelihoods have really suffered. Fishermen have lost their boats and their nets. Farmers' fields and the crops have been destroyed, and even sometimes their store from the last harvest has been destroyed. So we'll be planning livelihood programs to get them up and running and self-sufficient once again.